Make some noise.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Derrière
l'objectif.
L'objectif.
Derrière l'objectif.
Pour moi, ça reste toujours un mystère, en fait, cette femme, Larissa. Je me dis, et c'est vrai que la question, c'est pourquoi elle est restée là-bas? Qu'est-ce qu'elle trouvait dans la zone interdite de Tchernobyl?
Le photographe Guillaume Herbeau documente des lieux chargés d'histoire dont il interroge les symboles et la mémoire pour en révéler les drames invisibles. De Tchernobyl à Auschwitz en passant par Nagasaki ou encore, plus récemment, le conflit en Ukraine. Guillaume Herbeau, qui vient d'intégrer l'agence Vue, a reçu de multiples récompenses, deux WordPress, un Visa d'or, le prix Niepce 2011 et le prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre, catégorie webjournalisme, pour son carnet de route en Ukraine, produit par Arte Info. 35 ans après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, Guillaume Herbeau nous emmène dans la zone d'exclusion, le territoire banni puisque contaminé, autour de la centrale. Derrière l'objectif radioactif de Guillaume Herbeau.
Je m'appelle Guillaume Herbeau, je suis photographe, je fais du photojournalisme, du documentaire. Je travaille pour les principaux journaux français et mon travail, c'est de raconter des histoires avec la photographie.
Le commentateur soviétique dit « Voici la zone interdite de Tchernobyl ». C'est ici que commence le périmètre de sécurité de 30 km, seulement accessible sur autorisation gouvernementale. Toute la population a été évacuée. Ici, toutes les maisons ont été soigneusement et calmement fermées. Et avant de partir, les habitants ont pris toutes les précautions. Plus loin, il y a une rue qui s'anime chaque jour un peu plus avec les experts et les scientifiques qui arrivent de toute l'Union soviétique. À l'état-major de l'équipe de secours, on travaille de 6h du matin à 1h le lendemain. Les commissions de travail mises en place par Moscou sont présidées par un vice-premier ministre.
En avril 2010, je suis à Tchernobyl et je travaille depuis plusieurs mois sur la zone interdite de Tchernobyl. Et je vais m'installer à côté de la zone. Et chaque jour, en fait, je prends la carte de la zone je ne sais jamais ce que je vais raconter dans la journée. Donc c'est la géographie qui m'amène aux histoires. Et un jour, en fait, j'apprends qu'il y a une ville qui s'appelle Poliskie, une ville qui est à peu près à 50 km à vol d'oiseau de la centrale atomique de Tchernobyl qui a explosé en 1986. Et je vois que cette ville de 20 000 habitants est dans la zone interdite. Cette ville, elle a une histoire très très particulière. Donc quand la centrale a explosé, on a dû évacuer les gens qui vivaient à Pripyat, donc la ville fantôme qui est, enfin la ville aujourd'hui fantôme, qui était située à peu près à 3 km de la centrale de Tchernobyl et qui a été évacuée du jour au lendemain. Et donc pour évacuer les gens, en fait, on a été par phase. Et certaines personnes de Pripyat se sont arrêtées à Poliskie. Ils ont passé quelques jours et ils sont repartis. Les gens, au départ, les ont bien accueillis de la ville. Et puis à un moment donné, en fait, ils en ont eu marre, ils ont eu peur d'eux, ils ont dit que les gens de Pripyat ramenaient la radioactivité dans la ville. Il faut imaginer une petite ville, en fait, plutôt agréable, entourée par la forêt. Il y a un lac à côté. On dit que c'est la ville des oiseaux parce que dans la ville, il y a un bruit très fort des chants des oiseaux, qui est très, très beau d'ailleurs. Et voilà, donc moi, j'imagine cette ville en 86 comme un petit paradis. Donc, je rentre dans la ville. C'est une ville fantôme aujourd'hui. C'est des ruines. Je me promène dans la ville. C'est très étrange de marcher dans une ville fantôme. Donc là, il n'y a vraiment personne. Il y a des chiens errants. Il y a parfois des bruits comme un écho de marteau. En fait, j'apprendrai plus tard que ce sont des gens qui rentrent clandestinement dans la zone et qu'on appelle des stalkers et qui sont en train de ronger petit à petit la ville pour voler le métal qui est intégré dans les bâtiments. Et on voit parfois, quand j'en rentrais dans un immeuble et que je commençais à regarder le paysage, parfois je voyais des silhouettes passer dans les fourrés, dans la végétation, etc. Donc il y avait un côté, c'était un peu Walking Dead. Et là, je marchais seul, en fait. J'étais vraiment seul avec mon appareil photo. Et donc il y avait une ambiance très, très dure, mais que j'aime bien, en fait, parce que là-bas, je me sentais très bien. En plus, c'est très beau. La végétation est vraiment belle. Mais il y a un côté un peu angoissant, quoi. Il faut imaginer le centre-ville, en fait, c'est trois rues. Il y a un immeuble à droite de quelques étages, 4-5 étages. Un peu plus loin, enfin, à côté, il y a un ancien magasin de jouets abandonné. En face, sur la place, il y a l'ancien théâtre. À gauche, il y a un ancien restaurant. Et il y a une avenue, après, un peu plus à gauche, en biais, où il y a des immeubles et des vieilles maisons individuelles. Et il y a la végétation. Il y a un trou au milieu de la... Une ancienne plaque d'égout qui a été enlevée, donc il y a un trou au milieu de la place avec le début d'un arbre, un petit bouleau qui pousse à l'intérieur de l'égout et qui remonte, qui dépasse la tête là de la plaque d'égout. Et à un moment donné, en fait, j'entends en fait le bruit d'un chariot et je vois une femme qui tire un chariot et sur le chariot, en fait, il y a des bouteilles d'eau. Donc on descend, je fais des photos de cette femme, je photographie, je dis juste, je fais un signe de tête et je commence à la photographier. Et puis après on commence à parler avec elle. Et on comprend en fait que cette femme, elle vit dans cette ville, elle vit seule et elle nous amène chez elle. Et donc elle est dans une petite maison en bois et elle est née dans la ville. Et elle nous raconte en fait que... Voilà, la ville, elle a été évacuée 10 ans après la catastrophe de Tchernobyl. Parce que, à un moment donné, en fait, on s'est rendu compte que, comme je vous le disais, il y avait des plaques radioactives. Donc les gens ne pouvaient plus vivre dans la ville. Et cette femme, qui s'appelle Larissa, elle travaillait pour la mairie. Et donc elle a aidé les gens à quitter la ville. Et à la fin, quand il n'y avait plus personne, elle a décidé de rester. Thank you. Donc je fais une photo d'elle, enfin je fais plusieurs photos d'elle cette journée-là, et je fais une photo en fait qui va être pour moi la photo forte du reportage. Elle nous fait visiter la ville et elle va nous amener dans l'immeuble où elle vivait avant et dans l'appartement où elle vivait avant. Et donc on la voit dans une rue avec de la végétation, on devine à gauche l'immeuble abandonné, et puis elle est au milieu, et elle a un manteau noir, et ça lui fait comme une cape, et elle a des chaussettes, je sais pas comment on dit, mais qui remontent sur le pantalon, qui sont rouges. Et on a l'impression donc que c'est le petit chaperon rouge qui se promène dans la ville. Ça, c'était la première rencontre qu'on a pu avoir avec elle. Et puis après, en fait, on est revenu quelques mois après, et là, on a passé une bonne semaine avec elle, à vivre avec elle. Donc elle avait déménagé, elle s'était installée rue Karl Marx, donc près de pas loin du centre, dans une petite maison toujours en bois, et elle s'était installée avec un homme qui vivait aussi dans la ville. Et quand on le voit, lui, la première fois que je l'avais vu, il était plutôt en forme, et là il était malade, il parlait pratiquement pas, il était allongé sur un lit, et dans la journée, il y avait des jeunes stalkers qui venaient la voir pour avoir des conseils, qui venaient boire de l'eau, et voilà, et on passait comme ça des journées entières où elle allait cueillir les champignons, chercher son eau en fait dans un endroit qui était totalement contaminé, où l'eau était contaminée. Et le dernier jour de prise de vue, avec Bruno, en fait, on va acheter des... On dit on va faire la fête. Donc on ramène de la nourriture, on fait un mini cocktail. Moi j'avais ça quand j'étais gamin, et quand je l'avais vu en Ukraine, ça m'avait fait tellement... Ça m'avait rappelé tellement mon enfance, c'était les petits pics pour les cocktails qui étaient en plastique en forme de sabre transparent. Et donc j'adorais quand j'étais gamin, mais là donc dans un supermarché ukrainien en lisière de zone interdite, ils en vendaient, donc on en avait acheté, puis on avait acheté des mini tomates, et voilà, des chips, voilà. Et donc le dernier soir, donc on fait ce repas de fête quoi, et puis après on s'en va. Et c'est la dernière fois, en fait, que je la vois pendant ce reportage. En 2016, je retourne là-bas. Je travaille pour un magazine sur Tchernobyl. Et je me dis, je vais retourner là-bas. Je vais prendre une journée juste, pas pour faire de photos, mais pour retrouver Larissa, lui amener à manger, de la nourriture pour... Voilà, et puis de la voir, lui demander de ses nouvelles, lui parler. On prend une bonne journée pour arriver là-bas. On arrive en fin d'après-midi, c'est assez long pour arriver là-bas. J'arrive au centre-ville. L'arbre qui est au milieu de la place a grandi. Il est maintenant beaucoup plus haut et tout. C'est assez marrant de voir comment la végétation en fait, ronge en fait, la civilisation. Les traces de stalkers ne sont plus là, on n'entend plus le bruit des stalkers. Je comprends en fait qu'il n'y a plus de métal à voler. Et par contre, je vois au loin des randonneurs. Donc des jeunes de Kiev qui viennent avec leur sac à dos et qui vont avoir un peu d'adrénaline en campant dans les zones interdites de Tchernobyl. Et puis je retrouve la maison de Larissa. Et j'arrive devant la maison. Je trouve que c'est bizarre. Elle avait un chien, le chien n'aboie pas. J'ouvre la porte. Il y a la carriole abandonnée, enfin qui est là, quoi, qui est un peu pétée d'ailleurs. Et je frappe à la porte, mais j'ose pas rentrer. Et j'ai mon interprète, Irina, qui me dit « Vas-y, ouvre la porte, Guillaume. » Et moi, j'ose pas, je suis pas chez moi. Donc voilà, on ouvre la porte. C'est des vieilles maisons en bois, et donc c'est des grandes pièces. Donc quand on rentre, il y a d'abord un endroit qui sert de cagibi, où les gens conservent leur boîte de conserve, leur nourriture, c'est frais. Et puis après, on rentre dans la cuisine, où il y avait un poêle à bois, en terre. Et là, en fait, la cuisine et la table sont complètement cassées. Ça a été pillé. Ce qui est assez étonnant, en fait, sur la table, par terre, je me rends compte en fait que les pics en plastique en forme de sabre sont toujours là. Ils sont dans un petit bocal renversé et il y a les pics de sabre. Et donc je me dis, c'est dingue, ce dîner de fête, il est encore là, présent mais abandonné. À gauche, sur le mur, il y a des fleurs rouges séchées qui sont accrochées au mur et que j'avais photographiées en 2011. Bon, donc j'imagine qu'elle cueillait chaque année un autre bouquet, que c'était sa décoration. Et puis après, à droite, il y a la chambre. Je rentre. Il n'y a plus de lit. Il y a plein d'affaires par terre. Et je regarde, je fouille dans les affaires. Il y a une photo d'elle où on la voit en train de sourire avant la catastrophe avec une personne à côté. Et puis par terre, il y a des vêtements. Et je commence à regarder les vêtements un par un. Et je retrouve en fait la veste noire. Et puis je vois que la veste, en fait, elle est... il y a des taches de sang. Et il y a un pull après à côté. Donc je le déplie et je vois une grande tache de sang qui part du col, donc c'est un col roulé, qui parle du col roulé et qui descend sur la poitrine. Et donc je me dis, il y a eu un drame ici. Je suis un peu, enfin, je suis troublé, je suis choqué. On sort de la maison, je fais des photos de la maison et de tout ce que je vois, le pull, les traces, voilà. Et après, je rejoins la rue où il y a les retraités qui sont encore là. Et là, je demande des nouvelles de Larissa. Et donc, il me raconte qu'un an auparavant, ben, on l'a retrouvée morte chez elle. La nuit, c'était en hiver, le corps était congelé. Et en fait, elle avait un cancer. Elle avait un cancer à la gorge. Elle est morte de ce cancer et je pense qu'elle a une tache de sang, soit parce qu'elle avait un hématome, je ne sais pas quoi, qui a explosé. Soit, c'est l'autre version, c'est qu'elle aurait été mangée par des chiens. Et pour moi, ça reste toujours un mystère, en fait, cette femme, Larissa. Je me dis, et c'est vrai que la question, c'est pourquoi elle est restée là-bas? Qu'est-ce qu'elle trouvait dans la zone interdite de Tchernobyl? Et moi, j'ai peut-être une des réponses, c'est que quand on est dans la zone interdite de Tchernobyl, en fait, on est comme dans un refuge. Peut-être qu'on meurt de la radioactivité, mais en fait, on a l'impression qu'on est protégé de la société. Et que chaque personne qui va à Tchernobyl, en fait, souvent, on n'a pas envie de sortir de la zone tellement il y a un truc très, très étrange où on est attiré par une lumière, comme les papillons, là, et qu'on n'a pas envie de quitter la lumière. Moi, j'y retourne régulièrement. Depuis 2001, je vais à Tchernobyl depuis 2001. Et c'est une zone que j'aime beaucoup. J'aime les gens qui sont là-bas, j'aime les paysages, j'aime la végétation. Il y a une sorte d'attirance et en même temps de répulsion, parce qu'en fait, quand on est là-bas, on a peur. Quand on n'a plus peur, en fait, ça veut dire qu'on est en danger. Donc il faut avoir peur, donc il faut arriver à gérer sa peur. Et il y a quand même, à un moment donné, il y a le temps qui s'est arrêté. Et donc, il y a des endroits où on se dit, là, on voit le temps. C'est une vraie expérience, quoi.
Derrière l'objectif. Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter.
even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.